Je vous annonce qu'à partir du lundi 14 mars, nous allons suspendre l'application du pass vaccinal partout où il s'applique. Et deuxième mesure, à la même date, fin du port du masque obligatoire dans tous les lieux où il est encore applicable, c'est-à-dire plutôt à l'intérieur.
19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Compris, vous l'avez entendu, ça y est, c'est le Premier ministre qui assure que à partir d'aujourd'hui, la fin du masque et aussi également, tiens, moi, c'est la fin du masque, c'est même mon masque, vous avez vu, juste pour vous enquiquiner. Allez, bienvenue à vous tous, bonjour et bienvenue, c'est parti pour une toute nouvelle semaine, qui s'annonce chargée en actualité. Vous le savez, mesdames et messieurs, les auditeurs partout en France. Je vous l'annonce parce que effectivement, nous allons monter crescendo dans cette campagne présidentielle. Alors, il se trouve que c'est un peu compliqué de faire venir désormais les candidats de cette présidentielle, mais nous y parviendrons. Vous nous connaissez ici, aux informés sur Beurre FM. C'est quoi notre slogan ? On ne lâche rien. Eh oui, je vous le dis en permanence. Et quand je vous dis qu'on ne lâchera rien, eh bien, on ne lâche rien. On revient sur trois sujets d'actualité aujourd'hui. C'est parti jusqu'à 20h, y compris l'antenne qui est ouverte au standard 0153483000 à la guerre en Irak. Franchement, j'ai envie de poser une question aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y a des pourparlers qui sont reportés de nouveau à demain, des négociations diplomatiques qui sont en cours. L'Europe, y compris la France, qui peine à trouver sa place diplomatique. Mais surtout, la question que je vais poser aujourd'hui, ce soir, dans les informés. Très honnêtement, est-ce que le dialogue est encore possible avec Vladimir Poutine ? La vérité, moi, je me pose la question et je deviens de plus en plus inquiet. Parce que je me dis, finalement, est-ce qu'on peut négocier et parler, échanger avec Vladimir Poutine ? Bon, ça me rappelle un peu Staline, mine de rien. Est-ce qu'il se Staline pas notre Poutine ? Bon, posons la question, mais bon. Bref. Second sujet qui a retenu notre attention, eh bien vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est Jean Castex, notre Premier ministre, qui a déclaré que la scène est ouverte. C'est quoi ? C'est ça qu'il faut dire. Faire tomber les masques, les amis. Ça y est, vous pouvez y aller enfin. Mais moi, je suis là pour vous rappeler un certain nombre de choses et poser la question ultime. Ne risque-t-on pas une autre pandémie en pleine face ? C'est la question que je poserai tout à l'heure. Et puis, dernier sujet qui a retenu notre attention, c'est la Corse. La Corse qui connaît un embrasement et une série d'émeutes, sauf que là, le ministre de l'Intérieur, évidemment, qui se déplace en Corse, sur l'île de Corse, va-t-il parvenir à dénouer tout cela ? Voilà le programme que je vous propose. 0153 48 3000, le numéro à ne pas manquer partout en France. Vous venez, et vous le savez, vous parlez, vous commentez, en toute liberté d'expression. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face. Le face-à-face.
L'ancien commandant de police, mais également aujourd'hui, il est sur scène, auteur d'une pièce qui se joue, je crois que la dernière, c'est quand ? Jean-Pierre Colombiens, bonsoir.
Bonsoir Adil et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. C'est une pièce qui s'appelle Le Testament d'un communard. Un ancien commandant de police qui aime l'histoire et qui aime la vérité historique surtout. Ouais. Et qui se joue au Darius Milhaud, un théâtre qui est dans le 19e arrondissement. Donc voilà, la dernière aura lieu samedi.
Franchement, allez le voir la semaine prochaine. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire ? Allez le soutenir tout simplement. Voilà. Shannon Seban, bonsoir, comment ça va ?
Bonsoir Adil, bien, merci, ravie d'être là.
J'aurais dû d'ailleurs commencer par vous. Ouais,
et
tout
oui,
va bien.
Honneur aux femmes.
Honneur aux femmes, tout va bien.
Tout va bien, merci beaucoup.
Ils kiffent grave les macronistes.
Ah bon ?
Ah, je préfère vous dire.
Eh bien, on va bien s'entendre.
À fond même, il ne jure que par ça. Clochette ! Mais oui, qu'est-ce qui m'a pris de dire ça, moi ?
Ça t'a échappé, je pense.
Il y en a un autre aussi qui est super macroniste. Non, je rigole. PRG, le coordinateur, le responsable du 9-3, justement. Ahmed Lawedj, bonsoir.
Bonsoir les auditeurs.
Comment ça va ?
Vice-président aussi des instances nationales.
Oui. L'instance nationale, vice-président, absolument, du PRG, vous avez raison. Comment elle va ? J'ai cherché à avoir des nouvelles de Taubira. Non. Franchement, je vous jure, je suis inquiet pour elle. Comment elle va ? Non, mais sérieusement, comment elle va ?
C'est une blague.
Il est taquin.
C'est une blague.
Elle dit qu'il est très taquin ce soir.
La question de Christiane, malheureusement, elle est partie un peu tard. Ouais. Dans cette campagne.
Bon, vous l'avez
je
dit.
Je pense que. Non, mais après.
On en avait parlé aussi, souvenez-vous.
Bien sûr, non, mais
elle est arrivée trop tard.
Après, et c'est une
Elle s'est sentie galvanisée.
C'est
hein.
une grande dame. Mmh. C'est quelqu'un qui est très intelligente et qui connaît bien la France. Malheureusement, je pense qu'elle est partie un peu tard. Et si elle serait présentée face aux Français un an ou deux ans avant avec une équipe derrière, je pense que ouais. ça aurait pu faire quelque chose. Mais bon, après, on voit aujourd'hui que même tous les autres candidats sont à la ramasse.
Il a droit une clochette. Non, mais comment il s'entendit ça, le vice-président national du PRG?
Il n'a pas tout à fait tourné.
Je vous dis, ce soir, ça va être un débat.
Vous entendez,
Chaman
Sebos, qui vous dit quelle mauvaise foi.
Moi, je ne suis pas contre Emmanuel Macron.
Ah. Ouais. Ça, c'est une première clochette.
C'est une première.
Comment il le taclait jusqu'ici? Il vient, il ose venir. Il ose venir m'annoncer en direct.
Parler en mal de Emmanuel Macron.
Si vous étiez assis à la place de Chanel.
Non, j'ai toujours dit qu'à un moment donné, non. Moi, j'avais une candidate.
Vous étiez assis là?
Non, j'ai jamais.
On va sortir les archives.
J'ai expliqué que Emmanuel Macron, face au candidat qui est actuellement, de toutes les façons, c'est un boulevard pour lui de gagner la présidentielle. D'accord? Après, je n'ai jamais dit que, en gros, c'était quelqu'un qui n'avait pas fait, j'y suis sur la pandémie, il a été très efficace. Il faut
que
le savoir.
C'est agréable.
Non, mais il faut le savoir.
Je vais prendre mon quartier. Soyez pas trop optimiste.
Allez, mesdames et messieurs, tout de suite, nous allons commencer avec le premier sujet qui fâche aussi. C'est la guerre en Ukraine avec la fin des pourparlers qui reprendront dès demain. Mais surtout, vous savez quoi? C'est la question que je pose moi aujourd'hui. Cette guerre, évidemment, qui fait plusieurs centaines de morts. Et je commence par vous, Shannon Seban, parce que c'est vrai, l'Europe peine, la France peine, Emmanuel Macron a du mal à s'installer diplomatiquement. De l'autre côté, évidemment, on a Vladimir Poutine qui tend l'oreille à la fois, qui souffle le chaud et le froid. Très honnêtement, je vous pose la question. Moi, j'ai envie de vous dire, j'y crois plus à l'issue diplomatique. Et que reste-t-il comme solution pour sortie de crise, sortie de guerre?
Eh bien, écoutez, Adil, moi, je suis plutôt optimiste. Vous voyez, je pense qu'effectivement, la quatrième session de pourparlers entre Moscou et Kiev qui vient de débuter s'inscrit dans un contexte qui est assez particulier, sur un fond de nouvelles attaques. On a un journaliste américain qui a été tué ce week-end. Donc, vous voyez, on sent que le conflit est en train de s'embraser. On a des civils qui ont été délibérément visés, une maternité notamment. Mais moi, je suis optimiste et je trouve qu'on a quand même des avancées.
Une fois qu'on a dit tout ça, Shannon Seban, c'est ça qui m'intéresse.
Une fois qu'on a dit tout ça,
que reste-t-il? Aujourd'hui, la guerre, elle perdure, elle continue. Vous avez vu, on arrive quand même à la 18-19e journée, jour de cette guerre.
Il faut quand même reconnaître.
Beaucoup s'interrogent maintenant.
Bien sûr, mais ils ont raison. Mais il faut quand même reconnaître que le conseiller du président ukrainien, il a affirmé que la Russie avait arrêté de lancer des ultimatums et que désormais les propositions étaient écoutées de façon attentive. Poutine lui-même a évoqué vendredi des avancées positives dans les pourparlers. Zelensky, de son côté,
a affirmé. Des avancées positives, on a toujours entendu Poutine parler d'avancées positives.
Non, mais là, Zelensky lui-même, côté ukrainien, reconnaît que l'approche est désormais fondamentalement différente de la part de Moscou dans les discussions. Donc moi, je pense qu'effectivement, la prochaine étape, ce serait une rencontre des présidents qui permettrait en quelque sorte d'acter un cessez-le-feu. La situation est en train de s'embraser. On a Biden qui, de son côté, a parlé potentiellement d'une troisième guerre mondiale. Donc là, je pense...
Vous voulez que je vous dise, Shannon, bon, là où on s'est loupé? Franchement, très honnêtement, je vais vous dire où on s'est loupé.
Biden,
et je vous pose la question. C'est cette fameuse conférence, le sommet à Versailles, où on a manqué d'invités, par visioconférence, ce que vous voulez, le président Zelensky et le président Vladimir Poutine.
Déjà parce que c'était pas prévu.
Il fallait les inviter, c'était le moment.
C'était le lieu.
Allez-y.
Si je peux me permettre.
Allez-y.
Est-ce que tu sais ce que
Jean-Pierre Colombiès,
ce qu'est le critère d'une bonne enquête judiciaire?
Ouais. Je vous ai senti agacé. Hein,
ouais.
Quand elle parlait, Chana.
C'est le respect du contradictoire. Dans cette affaire, on n'entend qu'un son de cloche. Mmh. Celui qui est pro-ukrainien et probablement que on peut considérer que l'invasion de l'Ukraine est à mettre au débit de Poutine. Pour autant, il serait peut-être intéressant de savoir quels sont réellement les arguments qui sont à prendre en compte dans ce conflit. On oublie que tout l'Est et le Sud de l'Ukraine est russophone et qu'il y a des intérêts totalement contradictoires entre la population ukrainienne de l'Ouest et celle de l'Est. Et que ce n'est pas d'aujourd'hui et que ça fait des années, ça fait même des générations que cet amalgame de pays abstraits, un petit peu abstraits, d'ailleurs les contours du pays eux-mêmes ne sont pas... très très vieux, hein. Tout ça s'est construit au fil des événements historiques, des guerres qui se sont succédées. Et si on ne tient pas compte de ça, on peut parler tant qu'on veut, tant qu'on est uniquement du côté de l'Ukraine de manière univoque, on n'en sortira pas. Il faut impérativement qu'il y ait effectivement des négociations, mais qui tiennent compte des deux pôles de revendication.
Comme bah, la seule revendication de oui, Vladimir Poutine, c'est que l'Ukraine soit neutre. Neutre.
Et voilà. Il faut rappeler quand même que si l'OTAN n'avait pas insisté à tel point pour faire de l'Ukraine un état relais de sa force, on n'en serait pas là.
Ahmed Lawedj.
Non, moi je crois qu'on
fait un tour de table, justement, on va en parler. On prend le temps d'en parler.
Je crois qu'aujourd'hui, la population, c'est les plus grands perdants aujourd'hui dans cette guerre, malheureusement. Quand on voit que y a des gens qui sont formés pour tuer de part et d'autre, et ça, c'est ça qui doit être inquiétant pour le monde. Après, je rejoins un peu le collègue là qui a dit,
c'est Jean-Pierre Colombier
qui expliquait que c'est vrai qu'il y a une situation où c'est vrai que, en gros, mais.
Vous êtes d'accord avec un son de cloche et pas celui des Russes.
Force à constater, c'est lui qui est quand même rentré en Ukraine. Et
mais
ça,
il dit quelque chose de sous-jacent.
Non, bien sûr.
On a d'un côté les méchants et de l'autre les gentils.
Non, il faut.
C'est ça qu'il est en train de nous dire.
C'est pour ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu quand même quelqu'un qui est rentré dans un pays et ça c'est mondialement interdit. Je veux dire, même si on n'est pas dans l'OTAN, même si on n'est pas à l'ONU, et d'autre part, je pense que la diplomatie aujourd'hui doit être. Comme l'a dit Dominique de Villepin, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas arrêter dans la diplomatie. Il faut continuer de travailler là-dessus pour trouver.
C'est ce que fait Emmanuel Macron.
Dès le départ, d'ailleurs.
Mais la question se pose aujourd'hui.
Il l'a fait.
Est-ce que.
Il l'a fait, certes, mais à un moment donné, voilà, je pense que. Il n'était pas Poutine, il est très intelligent. Il sait que Macron, dans deux mois, il y a les élections. Donc, il n'était pas en force pour pouvoir négocier.
Alors maintenant, c'est dans 30 jours, un peu moins.
Dans 30 jours. Mais à l'époque, c'était il y a un mois.
Oui, à l'époque.
Donc, voilà. Donc, c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné. Et là aussi, c'est aussi l'Europe qui est faible. Parce que là aussi, il faut qu'à un moment donné, l'Europe, quand on dit l'Europe, il faut que ça soit une Europe forte. Et quand aujourd'hui, le chiffon rouge est porté par Joe Biden, aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est qu'au contraire, l'Europe soit en dessous de tout ça pour pouvoir sombrer dans une guerre qui, lui, dirait « Moi, je regarde de loin et je ferai rien ».
Je pense qu'il faut être bien plus basique. Vous l'avez rappelé, les premiers perdants dans cette guerre, dans ce conflit russe-Ukraine, ce sont les populations, ce sont les civils. Le président Poutine a violé un État souverain. Le président de la République a fait le choix de la diplomatie dès le début février, dès le 7 et le 8 février. Emmanuel Macron s'est rendu à Kiev, à Moscou, pour essayer effectivement de maintenir un dialogue constant avec Vladimir Poutine et de trouver une solution. Aujourd'hui, on le voit bien, si Vladimir Poutine est en train progressivement de rétro-pédaler et de montrer qu'une issue positive est possible, c'est qu'il se sent exclu. Son économie, l'économie russe commence à être exclue. Les sanctions économiques qui ont été prises.
Il le dit pas, lui, président. Je ne peux pas vous laisser dire ça.
Non, mais laissez-moi finir.
Soyons factuels. Non, il a jamais dit ça.
Il faut quand même reconnaître.
Au contraire, il a dit que l'économie pouvait s'installer pendant.
Il faut quand même. Bien évidemment, mais in fine, mais c'est du bluff tout ça. In fine, quand vous voyez qu'il y a des sanctions économiques russes, qui ont été prises contre la Russie, qui ont été mises en place, est-ce qu'on doit parler de l'exclusion de certaines banques russes du système SWIFT, du gel des actifs de la banque centrale russe?
Ça, il l'a préparé, Aujourd'hui, il y a deux choses qui peuvent le.
Alors attendez, vous n'êtes pas d'accord? Ça tombe bien. Jean-Pierre Colombiès et ensuite Ahmed Lawedj. Pourquoi?
Moi, ce que je crains, c'est tout simplement que l'Europe. Qui effectivement ne représente pas grand-chose sur l'échiquier qui oppose l'Union soviétique, enfin la Russie, avec les Américains, que l'Europe soit finalement la grande perdante de tout ça. Parce que les Américains voient ça très loin. Et les Américains n'ont qu'une hantise, c'est que justement, à un moment donné, l'Europe se soit rapprochée de la Russie. Ça, c'était son problème. Et ça ne le voulait pas. Et en créant un blocage quasi irrémédiable aujourd'hui entre la Russie et l'Europe, on va avoir une alliance que beaucoup avaient envisagé, envisagent toujours d'ailleurs, c'est le rapprochement de la Russie avec la Chine, pour plein de raisons, et notamment pour les matières premières. Mais ça a échappé à
d'ailleurs,
beaucoup.
Et la Russie, le président Vladimir Poutine vient de démentir.
Il a démenti
justement toute négociation avec le président chinois
bien sûr.
Concernant Jean-Pierre.
Adil. Mais vous savez très bien que si les États-Unis.
On est dans la politique.
Non mais
on est
si les États-Unis, vous êtes relativement cynique et je pense qu'aujourd'hui les Français, de façon générale, je trouve que les indicateurs sont plutôt positifs. On a un message d'optimisme qui sont relayés par le président ukrainien lui-même. Laissons juste la chance de voir à quel point cette quatrième session de pourparlers peut aboutir.
Demain.
Voilà, on verra. Laissons voir. Arrêtons de prononcer.
Une pause, la première, et on se retrouve. On continue le débat. 0153483000. Ça c'est le numéro du standard. Vous pouvez aussi intervenir et commenter et donner votre point de vue partout. surtout en France. On vous attend et aussi également dans le monde. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Et il est 19h22 et en direct, ici même, vous le savez, comme chaque soir, c'est Les Informés avec Shannon Seban, qui se présente d'ailleurs... Non, même pas, d'ailleurs, non. Non, j'ai rien dit. J'ai fait une gaffe. J'ai rien dit. Voilà, j'ai le droit à la clochette.
Double clochette.
Qui se présente où, je ne sais pas.
Ah bah, j'ai rien dit, j'ai dit qu'il se présente. Moi, je pensais naïvement, mais c'est pas le cas.
Non, c'est pas le cas.
C'est pas le cas. Autant pour moi, ça arrive. Hein.
C'était par rapport à moi, je crois.
Ah, c'était pas à moi.
On en a parlé.
Alors, ça arrive, c'est le live, c'est comme ça. J'aimerais
bien. Si je me présente ce soir, effectivement, c'est face aux auditeurs qui nous écoutent, mais effectivement.
C'est oublié, ça y est, on s'est présenté pas. Ça y est, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Jean-Pierre Colombiès,
c'est moi.
Qui est avec nous, qui est un ancien commandant de police, mais également aussi auteur d'une pièce qu'il faut aller voir. C'est la dernière, la semaine prochaine. On vous dira tout à l'heure. Alors, sur la guerre de l'Ukraine, un petit tour de table. Quelle issue de guerre, de sortie de crise? Peut-on y croire encore? Poutine, est-ce qu'il tend vraiment son oreille? On fait un tour de table. Jean-Pierre Colombiès, Shannon, Seban, et ensuite Ahmed Lawedj.
C'est à moi donc.
Oui.
Bon, ben moi je pense que tout simplement, si on veut sortir de ça, il faut sortir du paradigme de la rigidité morale et écouter les deux parties. Et je pense qu'on échappera difficilement, de mon point de vue, très naïvement, à une partition du pays. Si on veut que la paix s'instaure, il faudra respecter les deux communautés qui s'opposent, qui ont des intérêts totalement divergents. Il ne faudra pas simplement dénoncer les méfaits d'une guerre, mais qui ont... Une guerre n'est jamais douce, n'est jamais tendre. Oui, effectivement, il y a des bombardements.
Vous disiez tout à l'heure qu'on a un son de cloche et pas celui...
Ben oui, moi je
c'est regrette. Volontaire, vous croyez que...
Bien sûr, on est dans ce qu'on appelle une communication de guerre.
C'est, nous, c'est quoi une communication de guerre?
Ben, c'est-à-dire une communication univoque. C'est qu'on est dans le camp du bien, et à partir de là, celui qui est en face est nécessairement dans le camp du mal. C'est malheureusement pas aussi simple que ça.
Communication de guerre.
Et il faut toujours prendre en compte les deux parties. Ce que je disais tout à l'heure, c'est comme une enquête contradictoire. Il faut écouter les deux parties. Tout le monde n'a pas...
Vous avez été chercher ça où, communication de guerre?
Bon, c'est des propos qui reviennent chez certains politologues et certains sociologues qui font l'effort de ne pas se laisser aller à la propagande.
Shannon, quel que soit.
Non, moi je pense qu'effectivement, il est peut-être un petit peu trop tôt aujourd'hui pour se prononcer, mais la voie qui a été celle du président et le chemin qui a été choisi, c'est celui de la diplomatie. La diplomatie, toujours. Et effectivement, la diplomatie, c'est la meilleure réponse face aux tentations belliqueuses et face à la guerre. Voyons ce qui ressort de cette quatrième session pour parler entre Moscou et Kiev. Voyons ce qu'il en ressort, mais en tout cas, une chose est claire, c'est que le président de la République, dès le départ, hein, dès début février, avant même que la Russie choisissent l'invasion de l'Ukraine, a joué un rôle de précurseur dans cette médiation, et je trouve qu'il a quand même joué un rôle plutôt fédérateur au sein de l'Union européenne.
Sauf que Shannon, est-ce qu'elle a encore toute sa place, cette voix, cette issue diplomatique?
Mais vous vous rendez compte, si on arrête, qu'est-ce
moi,
que
je
vous
sais,
voulez,
moi, je suis
qu'est-ce que vous voulez qu'on arrête les question. Sanctions? Quelle est la meilleure réponse qu'on puisse apporter nous, en tant que citoyens européens, en tant que patriotes, en tant qu'européens, face à ce conflit-là? Eh bien, c'est le dialogue. C'est de montrer que nous resterons toujours unis face à l'Ukraine, que l'Union européenne continuera à accueillir des réfugiés ukrainiens. Ce sont près de 3 millions d'Ukrainiens qui ont, à ce stade et à ce jour, quitté l'Ukraine. Nous, aujourd'hui, la meilleure position qu'on peut avoir, c'est de montrer qu'on est unis, ensemble, que les Occidentaux resteront unis pour soutenir l'Ukraine.
Vous avez vu cette vidéo d'ailleurs qui a circulé pendant tout le week-end? Cette vidéo où justement Paris se fait attaquer, c'est de la fiction. Vous avez pas vu?
Oui, avec la Tour Eiffel.
Avec la Tour Eiffel.
Ouais, tout à fait.
Ouais, incroyable.
Ouais, mais ça c'est
incroyable. Franchement, non mais attendez, incroyable parce que vous savez quoi? C'est les Ukrainiens qui ont réalisé cette vidéo pour sensibiliser les Européens, les Français. Direction le standard 0153 48 3000. Je voudrais juste accueillir du côté de la Loire Abderrahman. Bonsoir Abderrahman.
Bonsoir.
La Loire, quelle ville précisément?
À Saint-Chamond.
Eh bien, on vous écoute, mon cher Abderrahman. Bienvenue. Alors, dites-nous tout. Votre point de vue.
Voilà, ça me fait plaisir. Parce que vous parlez de la Russie et l'Ukraine.
Oui.
Ah. Et pourquoi les Russes, ils n'ont pas été vers la Pologne, la Roumanie et tout ça? Ils étaient juste à l'Ukraine.
Bah, vous avez la réponse, mon cher Abderrahman. Bien sûr, c'est l'OTAN, la Pologne. D'ailleurs, même pendant, j'ai vu d'ailleurs quelques informations circuleraient que la Pologne serait touchée. Mais bon, tout de suite, ça a été démenti.
Ils ont quelques petits.
Et pourtant, ils sont européens, les autres aussi.
Ben oui, on sait bien. Après, vous connaissez stratégiquement comment Poutine, évidemment, place ses pions.
Et je pense par ailleurs qu'il.
Il se garde aussi quelques réserves. À mon avis, Vladimir Poutine est suffisamment malin pour ne pas attaquer tout de suite tous les pays. Il se garde quelques réserves dans le cas où effectivement il ne parviendrait pas.
Voilà Abderrahman la réponse. Je pense, c'est plutôt ça. Ouais, je pense.
Il est suffisamment malin.
Ahmed Lawedj, merci Abderrahman de votre appel. Mais vous posez, c'est vrai, une question que. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on m'interroge là-dessus. Ahmed Lawedj, 01 53 48 3000.
Ben, moi, je pense que Poutine continuera. Son escalade en Ukraine. Je crois que l'accord de paix ne sera pas fait avec les Européens. Parce que je pense que s'il y a des pays qui peuvent aujourd'hui faire en sorte de lui tordre le bras pour qu'il puisse venir aux tables de négociation, et pour lui, ce serait très clair, hein, c'était en gros l'Ukraine reste neutre, pas d'adhésion à l'OTAN, pas d'adhésion à l'Europe. Je pense que le fait que son discours ait changé là, il y a 2-3 jours, c'est qu'il y a d'autres pays comme Israël, la Turquie, d'autres pays en Afrique qui sont en train d'essayer de voir de quelle manière. Et je pense que la diplomatie.
Ce serait un véritable échec pour les Européens, vous rendez compte?
Mais c'est ce que je disais.
Vous l'avez dit ici.
Donc, je crois qu'à mon nez, parce que pourquoi? Attendez, chacun des pays là aujourd'hui en Europe n'est d'accord pour pouvoir faire en sorte de tordre le bras au président Poutine. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose, arrêter d'acheter du gaz, d'acheter du pétrole. C'est la manne financière de l'URSS.
Sauf que l'Europe dépend à 40% quand même du gaz.
L'Allemagne, 54%.
40-40.
Si tu me permets, je voudrais dire deux choses. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est très comparable à ce qui s'est passé avec Cuba dans les années 60. Tout simplement, Cuba installe des missiles à Cuba. Pourquoi ? Parce que les États-Unis avaient installé des missiles en Turquie.
C'est une affaire une affaire d'armes aussi. Il ne faut pas
complètement s'ignorer. Donc l'URSS, la Russie, pardon, c'est un lapsus, défend à son secteur d'influence, tout simplement pour ne pas se sentir en danger. D'autre part, je laisserai la parole après là-dessus, enfin les États-Unis ne détiennent pas la voie biblique non plus. Ils n'ont eu de cesse dans leur politique internationale que de raconter des fake news officielles. Je rappelle quand même les deux guerres d'Irak qu'on nous a fait gober sur la base de mensonges absolus. Je rappelle quand même l'affaire de la Libye. Là, c'est pas les Américains, mais c'est les Franco-.
Qu'est-ce que vous voulez nous faire dire? Quelle est la comparaison avec l'Ukraine?
Mais j'en reviens.
Deux poids deux mesures.
J'en reviens à la communication de guerre.
Deux poids deux mesures.
Exactement. Méfions-nous des communications.
Ah, là, vous mettez là où le blabla est justement.
Ahmed
Lawedj. Non, mais il parle de deux poids deux mesures.
Non, mais il a pas tort sur le fond. Sur le fond, il y a cette problématique. Mais encore une fois, on tient en otage, encore une fois, les civils. Et c'est ça qui est dur. Et on va avoir aujourd'hui.
C'est plus profond que ça.
Il va beaucoup plus loin,
Jean-Pierre Colombès.
Bien sûr, mais pourquoi?
Il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire, en gros, le deux poids deux mesures, c'est que les États-Unis, quand ils attaquent, on ne bouge pas. Exactement. La Russie, quand elle attaque, on l'assassine. Oui. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Moi, c'est comme ça que je le comprends.
C'est complètement ça. Et je suis désolé, il n'y a pas de guerre propre.
Mais le chiffon.
Il n'y a pas de guerre propre.
C'est qui a secoué le chiffon rouge aujourd'hui? C'est les États-Unis, surtout tous les continents qui viennent d'être indiqués par Jean-Pierre. C'est quoi? C'est la Libye. La Libye, le bordel qu'il y a aujourd'hui, la Libye, c'est à cause de qui?
C'est Sarkozy.
Avec aussi
les Anglais et les Américains.
Et qu'est-ce que font les Américains? Jean-Pierre est en train de nous dire qu'ils ont agi en toute impunité.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait au Vietnam? Et tout le monde a appelé.
Shannon,
moi, je pense qu'on s'écarte là du problème qui est celui de l'Ukraine.
Non, pas si loin que ça.
Je voulais juste revenir sur la Pologne, parce que vous avez quand même soulevé le point de la Pologne. On a quand même le ministre des Affaires étrangères polonais qui a affirmé aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU que Vladimir Poutine avait fait une erreur tactique et stratégique en choisissant de s'attaquer à l'Ukraine. Qu'il a quand même eu un positionnement très clair. Je pense qu'ils sont progressivement en train de comprendre qu'ils vont être impactés de façon plus ou moins importante dans ce conflit. Donc voyons comment tout cela aboutit. Et encore une fois, moi je tiens à vraiment saluer cette quatrième session pour parler. Voyons ce qu'il en ressort.
Demain, rendez-vous demain 19h30 si vous venez de nous retrouver, pardonnez-moi.
Il ne faut pas oublier, mais il y a aussi l'exode aussi qui va être aussi dur à gérer.
Ah bah oui, on est en plein dedans, effectivement. 19h31 précisément, dans les informés, 01 53 48 3000, vous nous appelez, 01 53 48 3000. Je le rappelle, vous êtes prioritaire, on va accueillir un pharmacien, tiens, qui nous appelle de Nanterre. Nanterre, c'est le 92. Oui. Mohamed, bonsoir Mohamed.
Allô, salam alaikum.
Oui, bonjour, bonsoir. On vous écoute.
Alors, c'est quoi la politique?
Monsieur le pharmacien.
La politique, hein?
Bah écoutez, en même temps, on est un peu envahi par la politique au quotidien, j'ai envie de vous dire.
donc la démocratie de l'argent, oui. C'est un peu mieux que la dictature.
Oui.
Ouais, c'est S5 a dit ça et moi je l'ai recopié.
Oui.
C'est la première chose. Et comment dire.
La politique du fric. Pour... Oui. Qui l'emporte.
Du moins avoir la paix, il faut faire la guerre, ouais. Malheureusement.
Bah, c'est votre point de vue. Bon, merci, Mohamed. En gros, il est en train de dire que c'est l'argent qui l'emporte et qu'effectivement.
Ah, bah oui, il y a quand même des sanctions.
Qu'il faut des guerres pour évidemment.
Je rappelle qu'on.
Et les sanctions économiques prouvent qu'on peut calmer beaucoup de choses aussi avec la guerre. Avec le, voilà, des sanctions économiques, on peut calmer la guerre avec.
Faut pas que ça nous retombe dessus, par contre.
Ouais. Ceci dit.
Non, mais beaucoup pensent comme lui, c'est-à-dire qu'il faut provoquer des guerres pour pouvoir redresser un nouveau marché.
Ceci dit, Poutine, il fait pas la même chose qu'est-ce qu'il a fait en Afghanistan et en Syrie.
C'est clair.
Ça n'a rien à voir.
Ouais, c'est complètement différent.
Il a vraiment fait la guerre en Afghanistan.
En Afghanistan et en Syrie, en 3 jours, 4 jours, c'était terminé.
Si je peux me permettre une deuxième petite
parenthèse. Allez, il faut qu'on avance. Vraiment, je suis désolé, il faut qu'on avance. Parce que je vois que leur fil, la fin du masque, donc ça y est, c'est officiel, vous l'avez entendu tout à l'heure. C'était annoncé par Jean Castex. Le Premier ministre, c'était jeudi dernier, 3 mars d'ailleurs, qu'il avait annoncé. Il avait annoncé la fin du masque obligatoire partout d'ailleurs, la suspension du pass vaccinal. Bon, certains sont sceptiques, se posent des questions. Est-ce que suspension veut dire retour juste après les élections? Mais c'est vrai, beaucoup se posent la question. 0153483000, si vous avez évidemment des interrogations et la manière dont vous voyez les choses, vous nous appelez 0153483000. Alors, tour de table. Shannon, je voudrais vous entendre sur la fin du masque. Franchement, peut-on craindre une autre pandémie? Parce que, certains, quand même, bon... Je le disais, ils sont un peu sceptiques, ils se posent des questions. Et c'est légitime.
Bien sûr. Non, mais ça, je l'entends tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, déjà, je suis ravie d'être ce soir devant vous sans mon masque. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Vous l'avez rappelé, Adil, donc le port du masque, il n'est plus obligatoire dans les transports publics. On a fait le choix, effectivement, d'être relativement prudent, avec un allègement des mesures progressives.
Que dans les transports.
Que dans les transports et dans les établissements de santé tels que les hôpitaux et les EHPAD. Donc le choix a été fait, effectivement, doter le port du masque, doter cette obligation-là, mais dans les établissements de santé où on a les populations qui sont les plus vulnérables, le pass sanitaire est encore obligatoire. D'ailleurs, on a ouvert ce samedi la 4e dose aux plus de 80 ans. Donc on voit qu'on a une stratégie de déconfinement, comme on l'appelle, qui a été relativement progressive pour protéger nos aînés. Ensuite, le choix qui a été fait, c'est d'être relativement prudent, puisqu'on l'a vu à Shenzhen, récemment, on a eu une flambée des cas en Chine.
La question que beaucoup de gens se posent, est-ce que c'est pas un peu précipité cette histoire-là ?
Précipité, non. Ça, c'est ce qu'on appelle les yaka-faucons. Si on continue à être restrictif, on va nous dire on est des dictateurs, regardez, dans les autres pays européens, ils n'ont plus le masque. Et si, au contraire, on est trop laxiste et qu'on décide d'ôter le masque dans toutes les structures et même dans les transports publics, on va nous reprocher d'être trop laxiste. Donc, je pense que là, on a une méthode qui a fait ses preuves. On a choisi d'avoir une stratégie de vaccination massive et gratuite qui nous a permis d'atteindre une immunité collective. Aujourd'hui, quand vous regardez dans les hôpitaux, moi je me suis rendue dans des hôpitaux ce week-end pour prendre un petit peu le pouls du terrain, et bien tout le monde reconnaît que les hôpitaux ne sont pas engorgés. Hein, ça, il faut être honnête.
On protège nos aînés
en continuant à imposer le port du masque et en imposant le pass sanitaire dans les établissements de santé. Et on continue à protéger nos aînés.
Je vois que Jean-Pierre, ça le fatigue. Pourquoi ?
Ça me fait bouillir ce que j'entends. Apparemment, vous faites presque un petit peu le porte-parole du gouvernement. Et j'avoue que bon.
Non, je ne connais pas.
On ne se connaît pas, donc j'irai pas plus loin. Cela dit, moi, je suis désolé.
Non,
mais bien sûr,
je suis au contraire.
Je suis en train de faire. Moi, je suis désolé. Mais ce gouvernement n'a eu de cesse que de mentir. François Mitterrand avait écrit en son temps le coup d'État permanent. Ce qu'on pourrait écrire sur le macronisme, c'est le mensonge.
Et là, on installe le
permanent.
Pourquoi il ment?
Mais depuis le début, on a eu des discours, mais complètement hallucinants, notamment sur le masque. Il y a des procédures judiciaires qui est en cours, et j'espère qu'elle ira jusqu'à son terme. On a eu des discours, mais terribles, de Salomon, Véran, Buzyn, Sibeth Ndiaye, nous expliquant qu'on était des crétins à porter le masque, ça n'avait aucune utilité. Et aujourd'hui, finalement, c'est la seule chose qui reste, c'est le port du masque obligatoire dans les transports. Cette pandémie, cette épidémie, qui au fil des mois qui se sont passés, a démontré elle-même qu'elle n'était pas vraiment une épidémie, pour les raisons que j'ai déjà évoquées ici, c'est-à-dire que c'est pas une épidémie qui a frappé tout le monde, malheureusement, et elle s'est acharnée sur les plus fragiles, c'est vrai, mais elle n'a pas frappé tout le monde de manière univoque. Et petit à petit, au fil des mois, c'est devenu autre chose qu'une épidémie, c'est devenu quelque chose qui est plutôt une pandémie, qui n'a pas plus de gravité qu'une bronchite ou qu'une grippe.
Giovanni, le réalisateur, me dit, on marque juste parce qu'on a beaucoup de retard, la dernière pause pub.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Les Informés, c'est avec Jean-Pierre Colombiès, avec Shannon Seban, avec Ahmed Lawedge, mais vous aussi au 01-53-48-3000. On continue le débat, effectivement, en étant en train de l'installer. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord et pourquoi, effectivement... Alors, Jean-Pierre Colombiès disait, juste avant la pub, que ce gouvernement est nullissime, médiocre, etc. Vous,
non,
vous avez dressé ce qu'il
sait. Qu'il a menti, c'est pas vrai.
Il a menti.
Depuis le début. Avec des incohérences en matière de gestion.
Alors, on peut échanger.
Je me permets juste, effectivement, de répondre... Au départ de l'épidémie du Covid, il faut quand même rappeler que l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, disait elle-même que le masque n'était pas utile parce que les gens ne savaient pas forcément le porter. Donc ce sont des termes qui viennent de l'OMS. Il faut quand même recadrer les choses, recadrer le débat et être assez honnête avec nos auditrices et nos auditeurs. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, ce qu'il a fait, il faut quand même rappeler qu'on avait affaire à une épidémie qui était complètement nouvelle. On avait affaire à une épidémie qui était complètement nouvelle. Moi, je veux juste comprendre, qu'est-ce que vous auriez fait de différent aujourd'hui?
Je vais vous expliquer.
Dites-moi, aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez fait de différent?
Vous savez, après Ahmed Lawedge, je voudrais l'entendre aussi.
Je ne suis pas épidémiologiste, mais je m'intéresse à ce que font les autres pays aussi. Et je vous rappelle quand même que dans les pays asiatiques, dès qu'il y a un pic de pollution, dès qu'il y a le moindre soupçon de pollution de l'air ou même de bactéries, ils mettent le masque. Ils ne se posent pas de questions. Nous, on a commencé à se tourner. J'ai même entendu Salomon dire en direct sur une chaîne de télévision qu'il n'y avait aucun risque dans les stades de foot parce que les spectateurs ne se parlent pas entre eux, mais regardent le match. Ça ne m'a pas été raconté, je l'ai entendu. Deuxième chose, quand on n'a pas de masque, ce qui est le cas, au lieu de dire que vous êtes tous des crétins, c'est un peu ce qui était dit, de porter de masque, et ben on invite les gens à les fabriquer eux-mêmes. Et c'est ce qu'on a fait, nous, citoyens. C'est-à-dire qu'on a pris des petits morceaux de tissu, on les a doublés, on les a découpés et on s'est fabriqué nos masques. Et ça a évité quand même d'être pris pour des crétins absolus. Et c'est ça que je reproche à ce gouvernement.
Mais qu'est-ce que vous auriez fait de différent?
Déjà, j'aurais pas menti, tout simplement.
Quelles sont les mesures que vous auriez mis en place il y a deux ans pour endiguer la pandémie?
Je viens de vous le dire, inviter les gens à se fabriquer des masques, réorienter l'activité industrielle, notamment du textile, pour fabriquer en masse des tissus, même artisanaux, mais pour protéger un tant soit peu la population. Même si on pouvait discuter sur l'utilité de ce masque, mais on ne ment pas.
Mais pourquoi est-ce que vous ne reconnaissez pas que c'est pas inscrit dans notre culture que de porter des masques? Quand vous allez en Chine, bien évidemment. Mais c'est pas dans notre culture de porter des masques. Ce n'est pas dans notre culture française.
On ne ment pas.
Ce n'est pas dans notre culture française que de fabriquer des masques. Et quand vous regardez les sondages,
parce que c'est culturel. De protection des individus.
Non, c'est culturel. Quand vous dites qu'en Chine, dès lors qu'il y a un pic de pollution, on porte un masque, c'est parce que c'est culturel. En France, on n'a pas été habitué à ce genre d'épidémie. Et je vous assure qu'on a pris les bonnes décisions. Mais dans tous les cas.
Il vous dit protection, il ne dit pas culturel.
Mais
il dit là, effectivement, c'est pour.
Pas de culture.
Bon,
L'OMS, ce sont des chiffres et ce sont des faits. Quand vous regardez ce qui a été affirmé par l'OMS, en 10 ans, c'est l'organisme. Mais qu'est-ce que vous dites face à l'OMS? L'OMS, on lui fait dire ce qu'on veut. Non, je suis désolée. On ne fait pas dire ce qu'on veut à l'Organisation Mondiale de la Santé.
Ahmed Lawedge, s'il vous plaît. Ahmed Lawedge.
Je crois qu'aujourd'hui, bon, il ne faut pas se leurrer, il y a eu quand même. Moi, je suis d'accord qu'il y a eu quand même une vague importante de morts dans ce pays, notamment dû au Covid.
Je rappelle que j'ai eu, pardonnez-moi Ahmed Lawedge, vous le connaissez, on a eu un débatteur ici, il est toujours débatteur, par manque évidemment, parce qu'il s'est loupé sur le masque, il le regrette, parce qu'évidemment il a suivi les consignes du gouvernement, dans le coma 41 jours.
Mais oui, bien sûr.
Bien sûr.
Mais ça, faut pas. Elle a existé. Et ça existe toujours. Donc, moi, je pense.
Je parle de Karim.
Alouache.
Karim Alouache, absolument.
Je connais. Ce que je disais, c'est que moi.
Le bandit.
La situation, c'est vrai qu'il y a eu un problème de communication au niveau des masques. Ça, je pense que le gouvernement. Il a fait marche arrière en disant oui, on a fait une erreur, c'est vrai. On aurait dû.
Rétropédalage. Dans le langage.
Pas Macron, mais par exemple, Véran, il l'a dit. Il l'a dit, Véran. Non,
bien évidemment, il l'a reconnu.
Il l'a dit, et je pense que là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu un problème de message, un problème de communication.
Il l'a reconnu ou il a fait son mea culpa? C'est pas la
je
même chose.
Je pense qu'ils ont fait leur mea culpa pour pouvoir faire en sorte de dire qu'ils ont fait une
connerie. Macron, lors de son allocution, a fait son mea culpa.
Ce que je veux dire, c'est par rapport à la question qui a été posée ce soir.
Il a dit, on a fait des erreurs.
Bien évidemment. Quand on est face à une
pandémie. Vous l'a répondu, non, mais il l'a dit, on peut sortir les archives.
Adil.
Macron a dit que, dans le cadre de cette grande allocution. Que je reconnais qu'on a fait.
Bien
des
sûr,
erreurs.
Ils l'ont dit.
Il a dit qu'il n'avait aucun.
Il l'a dit.
Voilà, si je peux terminer, parce que moi je vous écoute, mais ça serait bien aussi de.
Absolument, vous avez raison, Ahmed. C'est mon rôle.
Ce que je veux dire, c'est que la question qui a été posée, c'est est-ce que aujourd'hui c'est pas le fait d'enlever les masques aujourd'hui, est-ce que c'est pas une forme d'aggravation qui peut y avoir et que c'est pas en gros. C'est pas en gros, on n'est pas encore prêt.
Ouais.
Moi, je dis une chose.
C'est ça la question que je pose aujourd'hui.
C'est que moi, aujourd'hui, je suis content, c'est pour les enfants. Pour les enfants, les collégiens, les lycéens. Franchement,
moi,
je trouve quand même qu'aujourd'hui,
vous avez raison.
Maintenant, sur le reste, attention, la pandémie, elle est encore là. En Chine, ça progresse.
En Chine, ça remonte.
C'est exactement ce que j'ai rappelé en début de mon propos.
Ils ont repris les masques.
En France,
c'est reparti à la hausse.
Dans un mois, il y a un pic de 170 000 personnes qui vont être contaminées par jour. Donc, attention, on parle beaucoup d'autres choses, d'accord ? Mais la chose la plus grave qui peut arriver. Moi, je le sais, j'ai perdu mon frère dans le cadre du Covid, donc je sais ce que c'est. Donc, attention, moi je dis, j'alerte le gouvernement pour qu'on ait vraiment une communication normal qui soit donné à tous les concitoyens pour dire attention, ceux qui veulent le garder, qu'ils le gardent.
Une question du côté bien des sûr, auditeurs. Oui. Je vais accueillir Fatima de Paris. Bonsoir Fatima.
Bonsoir Adil, bonsoir à vos invités.
Welcome, bienvenue, on vous écoute ma chère Fatima.
Merci mon fils. Moi je voudrais m'adresser à la demoiselle qui parle au nom de En Marche. Hein,
alors elle s'appelle Shannon Seban. Voilà, vous pouvez l'appeler Shannon.
D'accord, Shannon.
Bonjour Fatima.
Bonjour Habeti. Moi je vais vous raconter une petite histoire véridique. Je n'écoute pas le gouvernement. J'ai voté pour ce gouvernement, mais pour la pandémie, je ne l'ai pas écouté. Ni lui, ni Sibet, ni personne.
Oui.
Depuis février, 2 ans, je porte 2 masques.
Ah, pourquoi 2 masques?
Je porte un en tissu, parce que je ne supporte pas le papier. Et par-dessus, je mets le jetable.
Oui.
Ça fait 2 ans, je ne suis pas vaccinée, je n'ai jamais eu le Covid. Dernièrement, j'ai porté un masque en tissu que j'ai traîné pendant 6 heures ou 7 heures.
Oui.
J'ai pris un bus bondé. Je descends le lendemain, je suis positive.
Manque de bol.
Alors,
ça arrive.
Ce que je vais expliquer, Adil, ce que je vais expliquer à madame, c'est qu'à chaque fois, ils disent. D'ailleurs, dernièrement, il y a Castex, moi je l'appelle.
Oui.
Il a dit qu'il faut enlever le masque pour ceci, pour cela. La meilleure protection contre le Covid, c'est le masque.
Qu'est-ce que vous lui répondez? Elle s'adresse à vous directement.
Moi, ce que je vous réponds, Fatima, c'est que la meilleure protection contre le Covid, c'est l'esprit de responsabilité. C'est que le gouvernement.
D'ailleurs, vous avez une déçue. Elle nous a dit en direct, elle ne voterait plus Macron.
Mais moi, j'écoute, j'entends.
Donc, qu'est-ce que vous lui répondez?
Moi, ce que je réponds, c'est qu'aujourd'hui, la meilleure protection, c'est l'esprit de responsabilité. C'est qu'on a un président de la République qui a fait du meilleur qu'il pouvait dans le cadre de cette crise. La gestion de la crise sanitaire, elle a été saluée à l'international. On a notamment Paul Krugman, qui a un prix Nobel d'économie, qui l'a rappelé. On a été les plus efficaces dans la gestion de crise. On a su protéger nos économies, on a su protéger nos salariés, on a su protéger notre industrie, on a su protéger des emplois et
Fatima.
On a su protéger des vies humaines.
Fatima.
Et aujourd'hui, quand vous regardez la stratégie de déconfinement, Fatima, on a fait le choix d'une stratégie de déconfinement progressive pour protéger au mieux nos populations et les plus vulnérables.
Excusez-moi.
Qui sont les moins vaccinés?
Attendez, Fatima, qu'est-ce que vous voulez?
Excusez-moi.
S'il vous plaît, Fatima.
Moi, je pense qu'ils vont pas nous la refaire à l'envers. Le Covid, en oubliant tous les problèmes sociétals. Le Covid, c'est fini. Il faut que ça soit une responsabilité personnelle, que chacun prenne sa responsabilité pour se
protéger. On s'entend là-dessus, Fatima. C'est tout à fait le message que je souhaite porter ce soir ici. C'est
donc
un esprit de responsabilité
pas,
de tous.
On n'a pas à voir tous les jours Varan, tous les jours Attal, tous les jours je ne sais pas qui.
Fatima, elle est comme ça, elle intervient
Fatima,
régulièrement.
J'adore
Fatima. Sauf que c'est des Macron, alors j'espère que vous allez réussir à la convaincre.
Excusez-moi. Arrêtez avec ce Covid. Il y a des gens qui sont mal logés, il y a des gens qui sont chômeurs, il y a des gens. Donc.
Mais Fatima, on est obligé, si vous voulez, que de rappeler régulièrement quelles sont les mesures qui sont.
Moi, si j'ai envie de. Moi, si j'ai envie
de. Exactement. Des médecins,
et des hôpitaux.
Merci Fatima.
Voilà.
Fatima, je dois avancer. Merci beaucoup pour votre intervention, ma chère Fatima. Vous le faites toujours avec autant d'efficacité. Un tour de table, s'il vous plaît, parce que je voudrais qu'on traite ce dernier sujet, la Corse, les émeutes, l'embrasement, et puis le débordement avec la police. Vous êtes aussi un ancien officier de police. J'aimerais vous entendre, effectivement, que se passe-t-il? Pourquoi ils sont débordés? Et pourquoi on ne parvient pas, effectivement, à freiner ou à se mettre d'accord, à discuter avec les manifestants?
Très cher Adil, si on veut comprendre ce qui se passe en Corse, il faut remonter un peu dans le temps. Les moins de 40 ans ne pourront pas très bien peut-être comprendre ce que je vais évoquer, mais je pense quand même. Il faut remonter à Aléria, 1975. lorsque un groupe autonomiste s'est emparé d'une ferme viticole, il y a eu deux gendarmes mobiles qui ont été tués à l'époque. C'est le début véritablement de l'émergence de la revendication autonomiste corse. Après, sur les mouvements autonomistes corse, ben, j'ai envie de dire qu'il y a autant de mouvements autonomistes que de régions en Corse. Hein. On ne parle pas le même corse à Bastia, Porto-Vecchio, Bonifacio, Ajaccio ou la Balagne. Donc c'est très complexe. Donc vraiment, pour s'attaquer à ce problème, il faudra des gens qui savent de quoi ils parlent. Je ne suis pas sûr qu'on ait la personnalité adéquate en ce moment.
Il me reste 50 secondes. 10 secondes chacun.
Non, effectivement, sur ce sujet corse, c'est un sujet qui est très sensible. Hier, on a quand même eu 67 blessés suite au rassemblement en soutien à Ivan Colonna. Le gouvernement a pris la mesure du problème. Il a fait un pas en avant. Gérald Darmanin doit se rendre en Corse ce mercredi 16 et ce jeudi 17 avril pour ouvrir un cycle de discussion avec les élus et les forces vives de l'île. Mais une chose est claire, c'est que la réponse ne peut être la violence. Et moi, aujourd'hui, ce soir, j'en appelle tout simplement au calme et à l'esprit de responsabilité de tous. Parce que sans calme, le dialogue n'est pas possible. Donc, on verra en tout cas ce qui ressort de la visite de M. Darmanin sur l'île de Corse en milieu de semaine.
Et attention, Shannon, hein, on a une fréquence en Corse et on a un bon public là-bas, effectivement. Une belle audience.
Trois choses. Colonna.
Du côté de Bastia, notamment.
Colonna, c'est une étincelle. Aujourd'hui, je pense que la Corse, depuis un certain temps, demande son autonomie intégrale. Et je pense que là-dessus, c'est là que les discussions doivent être prises par le gouvernement. Et je pense aussi, c'est que il faudrait revoir aussi au niveau de la justice, parce qu'on peut pas incarcérer des gens qui sont en Corse dans un autre territoire, parce que c'est aussi leur de faire une double peine. Pourquoi ? Parce que leurs familles, malheureusement, doivent prendre des avions pour aller les voir. Et ça, je pense que c'est intolérable. Et ça aussi, il faudrait revoir ce...
Ah oui, vous avez raison. Là, c'est politique, là, pour le
mais
coup.
Mais Jean-Jean Castex a d'ailleurs levé ce statut-là de DPS. Ça faut quand même le rappeler à nos auditrices et aux auditeurs. Hein,
effectivement. Merci à Shannon Seban, conseillère municipale donc sur la ville de Rosny-sous-Bois.
Merci, Adil.
À très vite. Ahmed Lawadj, le vice-président national du PRG, mais également le responsable sur le département du 93. À très bientôt.
Candidat sur la 9e circonscription des Français de l'étranger.
C'est officiel, voilà, absolument. C'est ce que je voulais dire. J'ai inversé les rôles.
Merci.
Voilà, candidat. Candidat à la 9e. C'est officiel, hein.
Non, c'est-à-dire que je suis candidat à l'investiture.
À l'investiture.
Après, on verra.
Après, on verra. Vous allez.
Eh bien, bonne chance.
Charbonnet. Jean-Pierre Colombiès, rappelez-nous vite le lieu, l'adresse pour votre pièce.
Eh bien, la dernière du testament d'un communard, au Darius Milo. Et moi, je suis candidat à rien. C'est simplement parfois heureux d'être parmi vous et de pouvoir débattre sur tous les sujets aussi complexes.
Et à très vite, au plaisir. Merci à Giovanni, à la réalisation et à tous les auditeurs. Évidemment, on n'a pas pu tous les prendre et c'est comme ça tous les soirs. Mais on remet ça demain. Les informés, 19h demain, 20h. Tout de suite, dans une poignée de minutes, c'est Time Sport avec Bilan Edman, que vous retrouvez de 20h à 21h. Quant à moi, vous le savez, on ne change pas. On ne lâche rien. À demain avec autant de plaisir.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.